Alors, je vous propose de faire ça, un texte important tiré de, ouais, toute la Bible est importante, en effet, un texte important tiré du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 20 et les versets 19 à 22. Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Jean chapitre 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile est centré exclusivement sur Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. En tout cas, il n'y a pas de contribution humaine à l'Évangile. Quand nous nous identifions à Christ et à ce qu'il a fait, alors cette identification nous fait passer, évidemment, par la croix, comme lui est passé par la croix. Ensuite, cette identification nous fait sortir du tombeau après notre ensevelissement par notre résurrection, comme Christ est ressuscité après sa mise au tombeau. Enfin, cette identification nous élève. Nous élève aussi par son ascension jusqu'à nous placer dans les lieux célestes, comme Christ a été élevé à l'ascension et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2 nous retrace en effet ce parcours, le mot-clé étant avec Christ ou en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme lorsque nous nous trouvons dans un ascenseur. Une fois que nous sommes à l'intérieur, alors, où allons-nous dans l'ascenseur? Où allons-nous? Évidemment, nous allons là où l'ascenseur va. Cela ne dépend ni de notre puissance, ni de notre capacité, encore moins de notre intelligence. Cela dépend uniquement du fonctionnement de l'ascenseur. En ce moment-là, la destination de l'ascenseur devient notre destination. Alors pourquoi nous contenter de moins? Pourquoi nous contenter de moins? Si l'ascenseur va jusqu'au trône, mais pourquoi voulons-nous descendre avant? Allons-y jusqu'au trône. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Il est bien question, frères et sœurs, de notre identification à Jésus dans notre vie quotidienne en tant que chrétien et en tant que disciple. En tout cas, c'est une conférence que j'ai entendue au Synode qui m'a inspiré en quelque sorte ce message que je voulais vous partager ce matin. Et donc, je disais, il est question de notre identification à Christ dans notre vie quotidienne en tant que chrétien et disciple. Alors, comment cela affecte-t-il notre manière de vivre et quel genre de personne devons-nous être? Et c'est bien ce que Jean, chapitre 20, 19 à 22, nous enseigne. Au-delà de l'enthousiasme que cela suscite, que cela peut susciter, il y a cependant un défi à relever de notre part. Il s'agit de la description de la première apparition de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Jean 20. Les disciples, nous dit, étaient enfermés dans une chambre par peur des Juifs. Et soudain, Jésus était là au milieu d'eux. il souffla sur eux, d'une peur, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, à travers ce souffle du Christ ressuscité, d'une façon totalement nouvelle, le Saint-Esprit est entré dans chacun des disciples. Et par le Saint-Esprit, la vie même et la nature même de Jésus leur ont été communiquées. La vie même et la nature même de Jésus. Sur le fondement donc de ce transfert, en quelque sorte, de sa propre vie et de sa propre nature, Jésus a pu leur dire ces paroles, mais vraiment ces paroles époustouflantes. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En effet, le Père a envoyé Jésus dans le monde pour accomplir une mission unique que personne d'autre ne pouvait accomplir. Jésus l'a accompli et était sur le point donc de retourner au Père, mais il ne s'est pas laissé sans représentant sur terre. Il dit à ses disciples, de la même façon que le Père m'a envoyé pour remplir une mission spéciale, maintenant à mon tour, je vous envoie. Je vous envoie, vous, mes disciples, pour accomplir une mission aussi spéciale. Je vais retourner au Père, mais je vous laisse sur la terre pour me représenter et pour accomplir une mission spéciale. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, bien-aimés, est-ce que nous nous considérons comme des représentants officiels de Christ, comme devant accomplir une mission particulière? Que signifie cette phrase « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie » ? Que signifie cette phrase ? Afin de bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, alors nous allons faire une autre lecture, toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 14, les versets 8 à 10. Jean 14, 8 à 10, un texte que nous connaissons plus tard en tout cas. Jean 14, 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Bien-aimés, ce passage nous révèle trois aspects de la relation de Jésus avec le Père. D'abord, Jésus n'a pas enseigné, il le dit, il n'a pas enseigné ses propres paroles. Il n'a pas donné ses propres paroles, mais il a dit les paroles que le Père qu'il a envoyé lui avait données. Ensuite, Jésus n'a rien fait dans son ministère rempli de miracles, bien entendu, mais il n'a rien fait de sa propre puissance ou de sa propre capacité. Il a déclaré « Le Père qui demeure en moi, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Enfin, troisième aspect de sa relation avec le Père, et c'est encore plus étonnant, il dit « Voir Jésus, c'est voir le Père. » Vous n'avez pas besoin de voir le Père. Vous m'avez vu. Et si vous m'avez vu, donc vous avez vu le Père. Alors, bien aimé, je résume ce que je viens de dire. Tout d'abord, Jésus a prononcé les paroles venant du Père. Ensuite, le Père a accompli ses œuvres par le Fils. Enfin, voir Jésus, c'était voir le Père. Par conséquent, voici maintenant l'application. Jésus a dit, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, la relation qui existe entre le Père et moi sera la même qui doit exister entre moi et vous, mes disciples. Voilà ce que Jésus dit. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que ce qui est vrai pour la relation entre Jésus et le Père devrait l'être aussi pour notre relation avec Jésus. Ensuite, ce n'est pas nous en réalité qui faisons les choses, mais c'est Jésus en nous qui accomplit son œuvre, tout comme le Père accomplissait son œuvre à travers Jésus. Enfin, nous voir, alors ça c'est fort, c'est voir Jésus. Donc, ma question, c'est quoi l'évangélisation? C'est quoi l'évangélisation? Ce n'est pas ce que nous disons, amener les gens à Jésus. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, l'évangélisation, c'est amener les gens à Jésus. Mais ce qui est en train de nous être dit ici, ce n'est pas ça, c'est l'évangélisation, c'est montrer Jésus aux gens. C'est tout à fait différent. Autrement dit, nous voir, c'est voir Jésus. Nous voir, c'est voir Jésus. Les gens n'ont pas d'abord besoin de nous entendre. Non! Ils ont besoin de voir Jésus. Voilà ce que les gens veulent. Voir Jésus. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 19, car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Une autre version dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, c'est ce que le monde attend. Que les fils de Dieu se révèlent. Mais lorsque les fils de Dieu se révèlent, en réalité, c'est Dieu qui se révèle, tel père, tel fils. Voilà notre défi et notre responsabilité. Nous sommes donc des représentants officiels de Christ sur la terre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et le livre des Actes nous enseigne que Dieu est en mission avec son esprit. Et nous, nous sommes simplement des accompagnateurs officiels avec lui. Voilà ce que nous sommes. Cette vérité est bien énoncée dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, ainsi de suite. Donc, cela commence d'abord par une nouvelle création. C'est passer de la mort à une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle création. Puis, dans cette nouvelle création, nous devenons les représentants officiels de Dieu et de Jésus sur la terre. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, nous dit ce même passage de 2 Corinthiens 5. Tout comme Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ainsi, Christ réconcilie en nous ou à travers nous le monde avec Dieu. Nous sommes, bien aimés, les ambassadeurs de Christ, déclare Paul. C'est comme si Dieu fait son appel par nous. Dieu appelle les gens par nous. Le verset 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a là, frères et sœurs, deux remarques à faire. La première, nous ne pouvons pas devenir les représentants de Christ si nous n'avons pas d'abord été transformés. Impossible. Nous devons entrer dans une nouvelle création. Nous devons avoir été recréés. L'ancienne création, je dis bien l'ancienne création, n'a aucun message en elle-même. L'ancienne création, c'est la nouvelle création qui a un message, le message de Christ. La seconde remarque est celle-ci. Notre message est fondé sur un échange divin qui a eu lieu à la croix. Quand Dieu a fait de Jésus péché pour nous, lui qui n'a pas connu de péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Donc, bien-aimés, pensez à vous comme quelqu'un qui est réconcilié pour réconcilier. Pensez à vous comme quelqu'un qui est réconcilié pour, en vue de la réconciliation, pour réconcilier. Vous devez d'abord être réconcilié avec Dieu par Christ puis vous devenez l'agent et le messager de la réconciliation de Dieu par Christ pour le reste du monde. Pour revenir à notre passage, Jean 20, 19 à 22, nous voyons Jésus curieusement souffler sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Alors, c'est curieux parce que Jésus avait indiqué lui-même que le Saint-Esprit ne viendrait pas avant qu'il soit parti pour retourner auprès du Père. Au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, en réponse à la question de Nicodème, sur la manière dont la naissance de l'Esprit peut se produire, Jésus répond qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 3, verset 14. Jésus parlait à la fois de sa crucifixion et de son élévation en gloire. Le Fils de l'homme doit être élevé sur le bois, mais aussi élevé au ciel. L'ascension était donc nécessaire pour que le Saint-Esprit soit donné. Mais comment se fait-il que Jésus donne ou a donné à ses apôtres le Saint-Esprit le jour de Pâques, donc avant la Pentecôte? Alors, on évoque évidemment l'idée d'une double investiture. Jésus investit deux fois ses disciples. D'abord, le jour de Pâques, Jean 20, et ensuite à la Pentecôte, chapitre 2, verset 4. En Jean 20, on assiste en quelque sorte à la nomination des disciples en privé pour seconder, pour succéder à Jésus dans le rôle de défenseur de la cause du Père et de Jésus. En Actes chapitre 2, verset 4, il est aussi question d'investiture dans des disciples, des apôtres, mais cette fois-ci en public, publiquement, par le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Investiture en privé, investiture en public. Et c'est ce que souvent Dieu fait. Ce qui est formidable, c'est que c'est Jésus qui a tenu lui-même à installer les apôtres dans leur mission, les investir lorsqu'il était encore présent avec eux. D'ailleurs, la formule qu'il utilise, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie », cette formule indique bien que c'est la succession de Jésus qui est en cause, qui est en jeu. Et le don de l'Esprit en cette occasion constitue, on le fait souvent dans le monde, une passation de service, passation de pouvoir par Jésus avant son départ. Vous voyez ? Et cette idée d'ailleurs de succession évoquée dans Jean 20, verset 22, n'est pas nouvelle dans la Bible. Souvenez-vous, ça nous rappelle comment les 70 anciens ont reçu l'Esprit pour seconder Moïse dans sa mission. Ça nous rappelle aussi comment Josué a reçu l'Esprit pour succéder à Moïse. Et enfin, comment Élisée aussi a reçu l'Esprit pour succéder à Élie. Dieu a prélevé, a pris l'Esprit qui était sur Moïse, pour le mettre sur les 70 anciens. Nombres, chapitre 11, verset 25. Alors que de son côté, Élisée, lui, a demandé. Élisée a demandé et a obtenu une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 15. Il apparaît que recevoir de l'Esprit qui est sur quelqu'un, c'est le recevoir en vue de la tâche, de la mission de ce quelqu'un. C'est le cas des 70, ou en vue de lui succéder dans sa tâche. C'est le cas d'Élisée. Le geste de Jésus, par lequel il souffle sur les apôtres, signifie qu'il leur communique l'Esprit qui était sur lui pour leur permettre de prendre le relais et poursuivre son ministère à lui. C'est le ministère de Jésus qui va se poursuivre par les apôtres. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Christ qu'il veut poursuivre à travers nous par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est important, il était important que Jésus accomplisse ce geste alors qu'il était encore physiquement présent pour marquer justement cette continuité. D'ailleurs, souvenons-nous que Josué bénéficiait déjà d'une œuvre de l'Esprit en lui avant d'être établi chef du peuple pour succéder à Moïse. Nombre 27, versets 18 à 19. Puisque lorsque Moïse lui a imposé les mains pour lui transmettre l'onction, la charge, il a reçu un nouveau don de l'Esprit en vue de l'exercice de cette nouvelle fonction. Certes, nous ignorons quand Josué a reçu l'Esprit pour la première fois, la Bible ne le dit pas. Alors sans doute, il avait reçu en vue de son rôle d'assistant de Moïse, rôle qu'il assumait d'ailleurs depuis sa jeunesse. En revanche, lorsqu'il a reçu l'Esprit une seconde fois, au moment où Moïse lui imposait les mains, il est clair que c'était en vue de l'exercice du rôle de successeur de Moïse à la tête du peuple. Ainsi, les gens pouvaient rendre témoignage, pouvaient rendre ce témoignage que le Seigneur était avec Josué comme il l'avait été avec Moïse. Josué chapitre 1, verset 5. Ceci a été notamment manifesté par l'accomplissement d'un des miracle semblable à ce que Moïse aussi avait accompli, comme Moïse avait fait ouvrir le passage de la mer Rouge, un passage s'ouvre aussi dans le Jourdain pour que le peuple justement traverse à sec. Et cet événement est présenté comme la preuve que Dieu était avec Josué comme il avait été avec Moïse. Il confirmait ainsi qu'il était le successeur accrédité de Moïse. Successeur de Dieu accrédité, successeur de Moïse accrédité par Dieu. C'est Dieu qui accrédite. Mais soulignons justement qu'il y a une différence entre le don de l'Esprit aux disciples le soir du dimanche de Pâques et le don de l'Esprit à la Pentecôte. Le premier récit dépeint une scène, j'ai dit, de passation de pouvoir, de passation de service au cours de laquelle Jésus, justement, l'apôtre, par excellence, l'apôtre des apôtres, transmet sa charge à ses disciples apôtres. Et pour cela, il leur communique cet esprit même qui a été sur lui jusque-là et qui a agi en lui. Le jour de la Pentecôte, en revanche, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas présent. Il donne du ciel, l'esprit qui porte ou qui transporte sa présence. Alors qu'il est absent, il donne l'esprit aux apôtres pour qu'ils se lancent maintenant dans l'action. Il donne l'esprit pour agir du ciel par les apôtres. C'est lui qui donne. Le jour de la Pentecôte, le don est fait aux apôtres pour qu'ils débutent leur ministère de façon effective. Mais aussi pour signaler que tous ceux qui croient, tous ceux qui croient en l'œuvre de Christ à la croix, peuvent aussi recevoir le Saint-Esprit, mais pour ensuite, à leur tour, voyez, proclamer de la part de Dieu que cet Esprit est disponible pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. La grande caractéristique du christianisme, frères et sœurs, est que Jésus est glorifié au ciel. Je vous ai parlé des caractères, le caractère du christianisme, à travers la circoncision. Et là, vous avez une autre caractéristique. Dans aucune autre religion, vous trouvez ça. Jésus est glorifié dans le ciel. Il a été déclaré Seigneur et Christ. Et qu'en conséquence, le Saint-Esprit est descendu ici-bas comme une personne divine à la Pentecôte pour y demeurer. Dès lors, quiconque est né de nouveau devient un vase préparé pour que le Saint-Esprit habite en lui. Alors, vous savez, quand Jésus est né à travers la Vierge Marie, il était sur terre. Il n'y avait plus de Jésus au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait plus de Jésus au ciel. Il était sur la terre. Et c'est après sa mort, sa résurrection, son ascension qu'il est retourné. Et Jésus a reçu du Père l'Esprit et il nous l'a envoyé. Donc, le Saint-Esprit aussi n'est plus au ciel. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le Saint-Esprit est répandu. Cependant, il est où? Voilà ma question. Il est où? Il est où? En nous. en nous. Mais c'est aussi ce que j'ai dit, la succession. Ça s'appelle l'onction des pères qui traversent les générations. Moïse qui a sorti le peuple d'Israël en Égypte. Avec quelle onction? C'est avec l'onction qui était partie d'Abraham. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand vous lisez la Bible. Abraham a reçu la promesse et l'onction. Il l'a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Jacob a transmis aux 12 tribus, à ses 12 enfants. Ainsi de suite. Et c'est arrivé jusqu'à Moïse pour que Moïse sorte le peuple. Le Saint-Esprit n'est plus au ciel. Il est sur la terre. Il est sur des individus. Si vous avez un père spirituel, allez-y. C'est ce que Élisée a fait. Il a observé et il a, au moment opportun, il a demandé le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est l'habitation de l'Esprit, l'Église. L'Église révèle la position, l'Esprit révèle la position de l'Église. L'Esprit révèle la position de l'Église en Christ et la position en Christ des fidèles qui la composent. Vous voyez, on parle de l'Église, mais l'Église c'est le bâtiment. Mais l'église, c'est nous. Le temple, c'est nous. Siméon était le temple avant le temple. Mais l'église, c'est nous. Oui. Le Saint-Esprit doit habiter ou habite en nous. Il est dit, en ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, Jean 17, et vous en moi, et moi en vous. Nous avons Christ, donc nous avons l'Esprit. Et l'Esprit produit, maintient et garde l'Église dans le caractère de Christ. En grâce, évidemment, et en sainteté. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, « Vous êtes la lettre de Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant. » Nous sommes la lettre de Christ. Je disais, l'évangélisation, c'est ça. Nous ne faisons pas l'évangélisation, mais nous sommes l'évangélisation. Nous sommes la lettre, oui, la lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Quand nous nous présentons devant les gens, nous sommes l'évangélisation. Voilà des choses pour lesquelles nous devons justement avoir conscience, conscience. Pour terminer, je reprends justement l'anecdote de l'ascenseur de tout à l'heure. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous rentrez dans l'ascenseur, vous avez un bouton qui est marqué moins 1. Moins 1, ce qui signifie le sous-sol. Mais en réalité, le sous-sol représente quoi dans la dynamique chrétienne? Lorsque nous comprenons la parole, le sous-sol signifie notre baptême et notre ensevelissement. Ce qui fait que lorsque nous venons à Christ, nous commençons par descendre au sous-sol. Nous commençons par descendre au sous-sol où nous sommes ensevelis avec lui. Puis, évidemment, nous allons à l'étage dont nous avons appuyé le bouton. Nous sommes en Christ. Et quel que soit l'endroit où l'ascenseur nous conduit, nous y allons. C'est Christ qui nous amène. La destination de l'ascenseur, justement, devient la nôtre. Alors, pourquoi nous contenter de moins? Si l'ascenseur, je disais, va jusqu'au trône de Dieu, mais pourquoi voulons-nous descendre avant? Bien-aimés, puisse le Saint-Esprit changer nos cœurs, puisse son amour nous ramener justement à l'essentiel, nous élever vers une vie plus profonde, à l'exemple de Siméon, et puisse sa grâce justement nous apprendre à marcher dans sa présence pour la gloire de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, je vais inviter le groupe de louanges qui nous aide à interpréter ce chant Feu du réveil. Feu du réveil. Brûle en nous, feu du réveil. Une